23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Salut tout le monde. Alors, officiellement, Alain et moi sommes tous les deux en studio cette semaine.
Ça arrive.
Si vous nous avez écouté la semaine dernière, j'étais sur la route. J'étais encore sur la route cette semaine, mais je suis revenu à temps pour enregistrer l'émission. J'étais du côté de l'Allemagne où on est allé essayer le EQB. Mm-hmm. Je vais vous en glisser un mot dans l'émission, mais je voudrais aussi vous parler du Kia Niro que j'étais allé essayer la semaine dernière. J'avais dit que je vous en parlerais cette semaine. Alors, Alain, de ton côté, d'abord, salut.
Ben, bonjour, Benoît.
Tu vas nous parler de quoi, toi, cette semaine?
J'ai revisité la Toyota Mirai, parce qu'on en a parlé le printemps dernier. On l'avait essayé, quoi, une couple d'heures, même pas en Californie. Là, je l'ai eu ici à Montréal pour quelques jours.
OK, fait que t'as eu le temps de mettre les fesses dedans un peu plus longtemps.
Fait qu'on a pu, j'ai pu me faire une meilleure impression de ce véhicule qui est à hydrogène.
Qui est à hydrogène, en fait, qui est aussi électrique, mais sous une autre forme.
C'est
une pile à combustible. Alors, on va expliquer les subtiles différences tantôt. Puis, évidemment, on a, comme invité, tiens, le Salon de l'Auto de Montréal. Oui. Il va y avoir un Salon de l'Auto à Montréal en 2023. Je vous donne pas trop, je vous vends pas le punch, comme on dit en bon québécois. Denis Dessureau, qui est un des responsables du salon, qui est à la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal depuis des lunes, depuis à peu près aussi longtemps que moi je suis dans business. Et Denis sera notre invité tantôt pour nous parler justement du salon. Qu'est-ce que ça va être en 2023? Qui est là, qui est pas là? Parce que c'est ça la grande problématique qu'on a eue du côté de l'organisation. Et on va vous donner plus de détails. Et évidemment, on va commencer avec, comme à chaque semaine, nos petites nouvelles. Parle-nous de ça, toi.
Ouais, ben écoute, je commencerai en parlant de Tesla, parce que peut-être que si vous avez des actions de Tesla dans votre fonds de retraite, vous vous demandez ce qui se passe, parce que ça va mal pour Tesla à la bourse.
Ça a fondu comme neige au soleil depuis 2 mois.
Écoute, l'entreprise, qui on le sait, là, est dirigée par le milliardaire Elon Musk. Hein, on parle de lui beaucoup depuis quelques semaines pour d'autres raisons. Bref, Tesla a effacé plus de 300 milliards de dollars américains en valeur boursière au cours des 2 derniers mois. C'est énorme. c'est vraiment beaucoup d'argent.
C'est pas beaucoup, c'est monstrueux. En fait, c'est l'équivalent de ce que vaut en bourse plusieurs compagnies automobiles au grand complet. Là.
C'est beaucoup. Puis même dans un secteur, parce que Tesla, on peut aussi dire que c'est plus une société technologique sous un certain angle.
Oui, c'est vrai.
Où là, les principales sociétés cotées en bourse dans les technos là, sont en perte de vitesse depuis le début de l'année de façon assez intense aussi. Ça reste quelque chose de préoccupant pour Tesla. Et d'ailleurs, ça préoccupe pas seulement là, les amateurs de la marque, parce qu'il y en a beaucoup, là, de la marque de véhicules électriques. Les analystes commencent à trouver que c'est assez là, la chute du cours de l'action de Tesla, parce que eux aussi, ils craignent pour leur rendement. Et c'est ce qu'on dit là, du côté de la banque américaine Morgan Stanley là, que c'est que ça commence à faire. On calcule que l'action ne devrait pas avoir à baisser sous les 150 US américains. L'action se négocie en ce moment quelque part entre 180 et 200 américains. Mais à son sommet, en novembre ou en tout cas l'année dernière, elle était au-dessus de 400. Donc c'est vraiment une perte de valeur assez substantielle.
C'est la moitié.
Et à l'époque,
un peu plus.
Ouais, un petit peu plus que le double, et ça conférait à Tesla là, une valeur supérieure, évidemment, à tous les autres constructeurs d'automobiles sur la planète, ce qui est un peu bizarre vu le nombre de véhicules qu'elle vendait par
Alain, on pourrait-tu voir ça un peu comme une correction boursière?
Ben, en même temps, le phénomène de correction, c'est sûr.
Parce que on s'entend, là, il n'y a aucune raison qu'une compagnie comme Tesla, bon, qui croit, oui, mais qui est évalué à des quantités d'argent qui ont aucun bon sens, considérant ce qu'elle représente vraiment sur le marché.
Ouais.
À un moment donné, il y a à dire, OK, on va ramener ça là, plus proche de la réalité. Moi, je pense qu'il y a un peu ce phénomène-là qui se joue en ce moment.
Ben, on peut dire qu'il y a un peu une surcorrection dans le cas de certains titres, et c'est peut-être le cas avec Tesla en ce moment. Pour Morgan Stanley, en tout cas, on dit qu'à 150 $, l'action est une aubaine. Donc, pour les investisseurs, c'est sans que ce soit un conseil, c'est un clin d'œil. la banque américaine là, fixe le cours cible de Tesla d'ici 12 mois à 330 $. Donc, plus que le double. Elle rappelle que parmi les constructeurs d'automobiles électriques qu'elle suit, là, Morgan Stanley, Tesla est le seul qui génère un profit sur chacun des véhicules qu'il vend. Donc, bref, c'est plus le moment d'acheter que de vendre en bourse, là, dit Morgan Stanley. C'est à suivre, évidemment. Il faut dire que la pression sur Tesla vient justement de différentes sources. On le sait, le marché est au ralenti.
Twitter aussi qui a joué là-dedans, c'est
ça? On le sait, Elon Musk passe plus que le temps nécessaire là, du côté de Twitter pour espèce de remettre ça sur pied.
Il a même souligné la semaine dernière qu'il pensait commençait un nouveau CEO pour Tesla, tellement que il commençait à, parce que là, on s'entend, là, il gère trois compagnies en même temps qui ne sont pas les plus petites.
Et qui ne sont pas au même stade de leur
croissance. T'as SpaceX, t'as Twitter, puis t'as Tesla, là. Déjà, être gérant d'une grande entreprise, c'est un défi. Trois.
Oui.
Ça relève de la folie.
Et c'est ce qu'on dit du côté des analystes aussi. On pense que Musk devrait établir une espèce de mécanisme, là, qui lui permettrait de mieux répartir son temps entre les différentes activités, parce que SpaceX aussi, c'est en pleine croissance dans un autre
créneau. Oui. Tu sais, ils ont eu un contrat de la NASA, ils s'en vont, ils préparent Mars, puis pas un peu, là. Ils ont des équipes, ils ont engagé du monde. Tu sais, les gens disent, c'est de la science-fiction. Non. Ils sont là-dessus pour le vrai, là.
Ils font des grandes choses, mais.
Là, il fait des grands tunnels dans certaines grandes villes américaines. Il veut traverser l'océan.
Ouais, ça, c'est plus loin, je pense. Il veut brancher les cerveaux aussi. En tout cas, il y a bien des affaires qui sont.
Je pense qu'il dort pas gros, lui.
Ils sont loin. Ben, il est un peu hyperactif, n'est-ce pas? Puis, cela dit, puis c'est ce que les actionnaires commencent à. En tout cas, il y en a qui commencent à piaffer. Et ce qu'on dit, c'est qu'un siège de PDG, des fois, ça peut rapidement devenir un siège éjectable.
Oui. Bon.
Alors, faut prendre des notes.
D'accord. Autre nouvelle.
Écoute, on en sait un peu plus sur le futur petit VUS électrique de Mini, le Ace Man.
Oui. Moi, je trouve ça fait un autre super-héros de Marvel.
Ça vient avec une chanson, c'est sûr. Ça peut pas juste dire Ace Man. Faut dire qu'il y a un petit jingle. Ouais.
Je sais pas, là, il y a quelque chose. Il y a eu Ant-Man, mais il y a peut-être Ace Man. Je sais pas. Il y aurait quelque chose à voir avec ça.
Écoute, dans Seinfeld, il y avait Ass Man, qui est un proctologue, je crois, qui est un grand classique aussi. Mais c'est complètement d'autres choses. Le Ace Man, c'est un prototype qu'on a vu chez Mini l'été dernier, là. Et là, ce qu'on apprend, ben, c'est qu'il est un peu plus près de devenir réalité. À moins, évidemment, que la direction de BMW préfère ressusciter le nom du Pace Man, qui aurait comme juste un P.
Ça
de
serait
plus.
Une mauvaise idée. Tu sais, quand un modèle n'a pas marché, puis tu ramènes le nom, tu dis, c'est comme si Ford ramenait un Edsel. Pas sûr que ça se vendrait.
Ce serait pas le succès qu'on voudrait, non, nécessairement, mais écoute, on serait pas à une décision osée près chez BMW, là, je vais dire ça comme ça.
Non, il y en a une coupe, c'est vrai.
Effectivement. Ce qu'on sait à propos du Iceman, c'est qu'il est déjà à l'essai sur la route en Europe, il y a des prototypes qui circulent. Il s'agit d'un petit utilitaire plus urbain que sportif. En fait, qui est réellement utile aussi, on pourrait le dire, parce qu'il est quand même pas très gros, et qu'il sera exclusivement électrique, ça c'est l'autre partie de la nouvelle. Il pourrait être mis en marché en 2024 ou en 2025, là, ce qui laisserait le temps à Mini de lancer une nouvelle version du Countryman, qui serait lui un peu plus gros.
Ouais.
Ce qui créerait un peu plus d'espace dans le catalogue pour un deuxième véhicule utilitaire, bon, plus compact, mais quand même pas trop. Côté mécanique, là, on sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que la Iceman pourrait partager la même mécanique que la Mini Cooper électrique qui est attendue l'année prochaine.
Ça, c'est une mauvaise idée, ça.
J'allais dire, c'est une fausse bonne idée, parce qu'effectivement, c'est mieux, mais c'est pas assez bon.
Il n'y a pas d'autonomie. En fait, on devrait se tourner du côté des modèles iX. Du côté de BMW, qui ont non seulement beaucoup de performance, mais beaucoup d'autonomie, et ça rendrait le modèle plus intéressant. Bon, probablement que si on va là, le prix va aussi être à l'avenant.
Exact.
Mais j'aime mieux payer un peu plus cher pour avoir une bonne autonomie que de payer pas cher ou cher pareil, parce qu'on s'entend, là, ce modèle-là va être assez cher, peu importe.
Ouais.
Et avoir une petite autonomie, ça, c'est...
C'est jamais très bon.
Non.
Faut jouer avec les chiffres, hein, parce que ce qu'on annonce du côté de... Ben, ce qu'on annonce pas, mais ce qu'on soupçonne du côté de Mini, c'est qu'on aurait un choix de deux moteurs. 135 kW, soit 180 chevaux, ou un peu plus, là, 215 chevaux dans une version sportive, et justement 300 ou 400 km d'autonomie par charge, mais les fameux kilomètres européens qui sont apparemment plus courts que les nôtres.
Ouais, le WLTP,
que les nôtres, c'est-à-dire,
là,
et qui pour nous serait quelque chose comme aux alentours, peut-être plus raisonnablement de 250 à 300 km, mais ce qui est quand même sous ce que offre d'autres véhicules de format comparable entièrement électrique d'autres marques. On
en connaît
plusieurs.
On s'entend, là, la moyenne des modèles qui arrivent sur le marché en ce moment, c'est 400.
Exact.
Fait que si t'arrives avec moins de 400, tu pars avec une prise.
Il y a probablement une notion chez Mini qu'on se considère comme des véhicules urbains très européens, donc on le sait, on peut circuler en ville beaucoup en Europe, puis c'est plus simple. En tout cas, il y a plein de bonnes raisons d'imaginer que c'est
l'urbanisation en Europe est pas mal plus forte que chez nous. Les distances à parcourir sont beaucoup plus longues.
Ben voilà.
Et surtout, il y a un phénomène qui s'appelle l'hiver qui coupe ton autonomie de 30, 40 et 50 dans certains cas. Fait que tu sais, les gens là à 300 disent « Oui, oui! » Si tu me garantissais 300, 12 mois par année, peu importe, je te dirais, OK, je vais vivre avec. Mais ton 300 est un 200 l'hiver. Puis si toi, tu vas à Québec de temps en temps, puis tu restes à Montréal, l'hiver, tu iras pas à Québec. Ben, tu vas y aller, mais pas d'un coup sec. Il faudra que t'arrêtes
ça
en chemin.
Te prendre du temps.
Alors, tu sais, puis moi, c'est la réflexion que j'ai de beaucoup de gens. J'ai quelqu'un qui m'a appelé ce matin, qui regarde pour un modèle EQB que j'ai essayé cette semaine, qui en a commandé un, puis il m'a dit, l'hiver, ça a l'air de quoi? On annonce 308 EPA. 308 EPA, là, ça veut dire 2,25 l'hiver. Si tu vas à Québec, tu pars de Montréal, là, je m'excuse, mais tu n'arriveras pas à Québec.
Non, ça ne sera pas suffisant. Sauf qu'à haute vitesse, ça va plus vite.
T'es à 2,25, peut-être, si tu roules 90 km/h tout le long. Puis si ton auto, t'as garde 5-6 ans, ben t'as un 10-12 % de perte au niveau de la pile. qui est une perte naturelle.
Parce une dégradation que normale, ben oui, c'est
ça. C'est comme les ordinateurs, risque, les téléphones cellulaires, c'est le même principe de pile. Alors, ça diminue naturellement. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que... C'est pour ça que 400, c'est comme le minimum pour t'assurer que, bon, les endroits où t'as allé, si t'es un peu plus loin, t'es capable d'y aller à l'année.
Fait que le Iceman ne sera pas un super-héros, finalement, Benoît.
Ben non, je suis un peu déçu. Mes crèmes m'en inventé un, mais je suis pas bon en dessin. Je me trouve un graphiste.
Cela dit, il va y avoir des gens pour l'acheter, l'Iceman, parce qu'on connaît l'attrait des marques comme Mini, marque européenne au Québec.
Absolument.
Donc, il y a des gens que ça va faire la fête. Écoute, ils vendent des Mini électriques actuellement, puis une autonomie de, je sais pas, 125 km sur ce véhicule-là.
Je pense que c'est 150, là, mais c'est pas terrible. Mais en tout cas, c'est intéressant. Tiens, il est sorti cette semaine, J.D. Power, une fois par année, fait une étude sur... Attends un petit peu. C'est l'étude annuelle qui porte sur la valeur de revente des modèles après 3 ans.
Oui.
Donc, cette année, il y a à peu près 13 constructeurs qui ont été, testés, qui ont été récompensés aussi dans 29 catégories différentes. Bon, pour donner une idée, ce qu'on a eu comme résultat, en haut de la liste, c'est Lexus. On n'est pas tellement surpris. C'est une marque qui, année après année, revient souvent. Honda. On a eu Kia. Et là, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont écrit Kia. Ils ont changé mon moteur dans tel modèle. Ils ont changé. C'est vrai.
Ça arrive.
Mais c'est pas des modèles, c'est pas ces modèles-là qui ont eu des prix. Parce qu'il y a d'autres bons modèles Kia. Le K5 est un qui a eu des prix. Le Kia Soul, le Sportage, puis le Telluride, puis le Rio. Donc ça, c'est la Rio. C'est les modèles qui ont eu des prix. En fait, en récompense individuelle, c'est Kia qui a obtenu le plus de prix, suivi de Honda, suivi de Toyota et Lexus. Donc, ça reste des classiques. Parmi les autres marques récompensées, on trouve Land Rover avec le Range Rover Velar. Je suis un peu surpris de trouver Land Rover dans une récompense de prix
n'importe où.
Parce que en Land Rover, la blague, c'est est-ce que tu vas avoir des problèmes? C'est pas est-ce que c'est quand tu vas avoir des problèmes? Parce que effectivement, moi, je dis toujours, vous allez louer, vous prenez la clé, puis quand c'est fini, au bout de 3 ans, vous remettez la clé, vous allez chez vous. C'est la seule façon de posséder un Land Rover, sinon ça va vous coûter la peau des fesses. Mais bon, on a remis quand même quelques prix. Chevrolet, la Bolt EV, ça va, c'est un bon véhicule, à part les problèmes de piles qu'on a eus. Mais les nouveaux modèles, ça semble réglé, tant mieux. Silverado 2500 HD. Lexus a eu le IS et le LX, le gros LX, le 600. En fait, c'était le 570 parce que c'est il y a 3 ans, donc c'est pas le nouveau modèle, c'est l'ancien. Même l'AMG GT 4 portes et le Metris ont eu des prix du côté de chez Mercedes. Porsche, la 911 et le Macan, ça je suis pas surpris. Le nouveau Integra que j'aime bien, mais que je trouve...
Qui a des qualités, mais des défauts.
Ben, en fait, c'est un véhicule à contre-emploi. C'est qu'on s'attend de ce véhicule-là à avoir une attitude sportive, une attitude nerveuse, dynamique, puis tu te ramasses avec une Honda Accord, mais déguisée en Acura. Ça va bien, mais c'est pas ce à quoi on s'attend quand on achète ce véhicule-là. Finalement, Jeep a eu un prix avec le Wagoneer.
Ah bon? Ben.
Puis Subaru avec le WRX. Alors, on résume ça un peu rapidement. Si vous voulez avoir plus de détails, vous allez tout simplement sur le site de J.D. Power. On a tout ça. Et une nouvelle qui vient de rentrer il n'y a pas si longtemps, on va rappeler 519 000 VUS du côté de Ford pour des risques d'incendie. Et non, ce n'est pas un véhicule électrique. C'est un véhicule, en fait, c'est deux véhicules à essence. Bronco, Sport et Escape. Parce qu'on le sait, c'est la même base. Il y a des risques d'incendie qui seraient dus à la fissuration possible d'injecteurs de carburant. Donc, évidemment, si un injecteur de carburant se fissure, qu'est-ce qu'il y a dans un injecteur de carburant, si ce n'est que
du carburant?
Alors, si ça fissure, puis on le sait, un moteur fait chaud partout là-dedans, là, une petite étincelle et kaboum. Il n'y a pas eu de décès, mais on a dit qu'il y a eu quelques cas. C'est sur le moteur 3 cylindres de 1,5 litres, qui est le moteur de base de ces véhicules. Là. Et c'est les modèles 2020 à 2023. Donc, on rappelle tout le monde dans ces 3 années modèles-là. Là, on dit que la réparation, évidemment, chez le concessionnaire, ils devront d'abord mettre un nouveau logiciel en place pour le véhicule parce qu'on dit qu'il y a une mauvaise séquence dans l'injection du carburant, ce qui peut causer la fissure. On devra remplacer, évidemment, le morceau. vérifier s'il n'y a pas de chute de pression dans la rampe d'alimentation qui est détectée, parce que les chutes de pression font en sorte que ça donne un coup. Tu sais, ça va comme bas, haut, bas, mm-hmm. haut. Et à force de donner des coups, ça finit par fissurer. Puis là, ben c'est là que le problème peut se produire. Alors, c'est une autre, parce que
ben oui.
des rappels chez Ford, on les multiplie.
Un risque d'incendie dans une voiture à essence, et personne ne remet en question l'existence des voitures à essence.
Non. Puis dans une voiture électrique, ben c'est ça.
Ouais.
Mais c'est pour faire la preuve que bon, il y en a pas juste dans les modèles électriques. Donc ça va arriver là. Les gens, Transport Canada va probablement suivre ce qu'on fait du côté américain avec le National Highway Traffic Safety Administration, mais ça devrait pas être trop long. Alors voilà, c'est nos petites nouvelles rapido presto. On va nous à la pause aussi rapidement que possible et on vous revient avec Denis Dessureau.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, après des années d'absence en 2021 et en 2022, ouais. Alain, il va y avoir un salon de l'auto à Montréal cette année. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Puis pour en parler un peu plus avec nous, on a le vice-président exécutif du Salon de l'auto de Montréal, Denis Dessureau. Salut, Denis!
Bonjour, messieurs.
Alors, Denis, on va se tutoyer parce que depuis que je suis dans la business, on se connaît. Donc, après tant d'années, vous voyez, je me sentirais un peu mal. Alors, j'avertis les gens, on se connaît bien. Denis, d'abord, félicitations parce que je pense que ça vaut à peine de le souligner parce que je compatis avec les gens qui doivent organiser un salon de l'auto. Là, c'est un sérieux casse-tête par les temps qui courent. Donc, parle-nous un peu de cette édition 2023. Comment vous avez réussi à vous débrouiller? Comment ça va se dérouler? Fait que tu y vas en étapes, on part du début.
OK. Ben, comme tu l'as mentionné tantôt, on a dû annuler la dernière édition et on l'a fait comme un mois à l'avance seulement. Donc ça a été très dur pour l'équipe. L'année 2021, bon, ça, tout le monde s'y attendait, il n'y avait plus rien qui marchait, vous vous en rappelez. Là.
Ouais.
Alors, donc là, c'était cette année, nous, on revenait en force. Bien entendu, vous savez qu'il y avait déjà des manufacturiers qui avaient commencé à déserter les salons à travers le monde.
Partout, effectivement.
C'est ça. Alors, on savait qu'on ne reviendrait pas avec un plein salon. Et le portrait qui se dessine pour nous présentement, c'est qu'on va avoir une vingtaine de marques représentées, plus des collections privées de véhicules exotiques, des Bugatti, des McLaren, des okay. Ferrari, des Lamborghini. Donc, on va avoir quelque chose de beau à présenter aux visiteurs. On voulait essayer de trouver des chiffres là qui étaient intéressants pour dire qu'on allait avoir à peu près le trois quarts des dix. Le trois quarts des dix meilleurs vendeurs au Canada
okay.
font partie du salon de l'auto.
On parle des marques, là, des constructeurs.
On parle des marques, c'est okay. ça, oui. Donc on va avoir quelque chose de bien à présenter là, aux manufacturiers. Puis les collections privées, il y en a une, entre autres, là, 20 voitures d'une valeur de 44 millions. Donc, c'est des choses qui vont être, comme je dis, on veut que ce soit un facteur wow. Ça va être un salon un peu plus petit. On va utiliser les deux tiers de ce qu'on utilise en général. Donc, le niveau principal, là, il va être...
OK, le niveau 2, là, au Palais des Exactement. Congrès, qui est le grand Exactement. Plancher, là.
C'est ça. Donc, okay. il y a 200 000 pieds carrés qui vont être utilisés pour présenter, là, cette vingtaine de marques.
OK, parfait. Et vous allez inclure sur le même plancher les collections privées, les voitures performance et tout, ou si vous allez en partie utiliser le cinquième puis le septième niveau?
Non, c'est ça. C'est la différence. C'est que la petite salle du septième et la moyenne du cinquième, on les utilise pas. On a voulu tout concentrer sur un seul niveau.
OK, ouais, donc
moins labyrinthique que ça l'a déjà été, labyrinthesque.
En fait, je vois presque ça comme un avantage. Les heures ont pu se promener d'un étage à l'autre.
Voilà.
Tout va être sur le même plancher.
Exactement.
OK, donc là, si on parle, bon, on va avoir la majorité des marques. Parmi les absents, là, on parle de qui? Qui ne sera pas là au salon cette année?
Et c'est très... J'aimerais mieux vous dire qui va être là.
Ben, on prend ben, d'autres. OK, commençons avec qui est là.
OK. On en a une vingtaine.
Okay.
Les Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Nissan, Subaru, Kia, Hyundai, Lexus, Toyota, le groupe de Stellantis, là, les Jeep.
Ouais. Le grand groupe Chrysler.
Ouais. Oh, la grande famille Stellantis. Là. Ouais.
Ouais. On va avoir VinFast aussi qui va être présent.
Ah, c'est bien ça.
Oui.
Parce que les gens n'ont pas vu ça, VinFast, encore chez nous. Là.
Sauf au Carrefour Laval.
Ouais. Ben, au Carrefour Laval qui arrive la semaine prochaine. Là, mais oui, oui, effectivement. Là, mais les VF6. Ouais. Allez-vous avoir 7, 8 et 9 ou s'il va y avoir des 6 et 7? Je suis trop vite.
Écoute, s'ils étaient capables de les amener, ils ont dit qu'ils allaient les amener.
OK, parce que le problème, ça va être parce qu'il n'y en a pas gros encore. Là.
C'est ça.
OK,
exactement.
OK.
Ouais, ouais. Il y a Mini aussi qui va être là pour la portion électrique avec des essais routiers. On revient aussi avec les essais routiers de véhicules électriques comme on fait.
Ça, c'est-tu toujours avec CCA Québec qui faisait ça?
Exactement. Okay. Avec CCA, ouais.
Et bon, on parle, je pense, la majorité des Allemands ne seront pas là.
Il n'y a effectivement aucun Allemand.
OK. À ta décharge, Denis, il faut dire que les Allemands ne sont à peu près plus nulle part.
Ouais. Ils ont
fait littéralement main basse sur les salons. Moi, je suis allé à Détroit, ils n'étaient pas là. Je suis allé, la seule place où je les ai vus, c'est l'an dernier à Munich. Parce que là, t'es en Allemagne, t'as pas le choix.
Ils ont régionalisé leur, mais ils ont ciblé,
puis eux ne sont plus nulle part. Donc, tes Allemands ne seront pas là. Dans les Japonais, qui n'est pas là?
Mazda, Honda et Mitsubishi.
OK, qui ne sont pas là, mais les autres sont là. Puis Mazda, même chose, Mazda ne sont plus dans les salons. Ils ont aussi approché, fait la même approche.
Il y a tout le côté d'approvisionnement qui demeure encore un gros problème pour plusieurs, même ceux qui vont être présents avec nous, puis qui vont se faire un plaisir de présenter les modèles, ils ont commandé, imagine, quand on parlait avec les responsables, là, ils ont commandé les voitures au mois de mars dernier pour être sûrs d'en avoir pour le salon.
OK, on parle quasiment d'un an d'avance.
C'est fou, là.
Mmh. Oui. Oui, oui.
Ça, c'est la compagnie. Puis effectivement, il y a plusieurs compagnies. Puis moi, ce qui me surprend ou ce qui m'impressionne beaucoup par les temps qui courent, tu regardes des publicités à la télé, on annonce des modèles 2024 et au-delà de véhicules qui ne seront pas ici avant un an et demi. Puis on dit pas aux gens, passez en concession. Allez sur le site, commandez-le tout de suite.
Ben oui.
Tu sais, il y a un énorme changement de mentalité de ce côté-là. Et c'est ça qui est difficile pour des gens comme vous, parce que là, tu es obligé d'organiser un salon avec des modèles littéralement virtuels que les concessionnaires n'ont même pas et qui n'auront pas avant 6-7 mois, peut-être, si ça va bien. Là,
moi, c'est ce que je dis aux gens qui m'en parlent. Je leur dis, écoutez, vous aurez l'occasion de voir des véhicules que vous ne pouvez même pas voir chez les concessionnaires.
Exact.
Ça sera la place. Ça sera la place pour les voir.
Oui, parce que c'est le 8, 9, 10 mois qu'on a pris chez les constructeurs, c'est pour être capable d'en avoir un pour le salon. On ne parle même pas d'être capable d'en envoyer en concession, là, d'en avoir un pour le salon. Fait que, malgré tout ça, et dans les circonstances, c'est quand même un privilège pour le salon d'avoir un modèle, des fois, qui est à peu près inexistant. Là.
Absolument.
OK.
Est-ce qu'il va y avoir des attractions spéciales cette année? Je sais que dans le passé, c'était un truc, là, vous avez des zones du salon qui étaient dédiées à certaines applications précises.
Ben, quand on fait nos attractions spéciales, c'est comme là, on vient avec deux collections de véhicules exotiques haute performance.
Mm-hmm. On peut-tu dire les collections de qui ou c'est encore un secret d'État?
Il y en a sûrement qui connaissent un dénommé Luc Poirier.
Ben oui, je suis allé visiter sa collection il n'y a pas un mois. Ouais. Alors, je pense que les 20 à 44 millions, ça doit être à lui, ça. Parce que j'ai vu sa collection, là, je peux presque te nommer un char qui va être là.
Ah, écoute, c'est ça. Il a fallu faire une sélection. On en a 20. Et puis, on a également une autre collection là, que elle, je peux pas nommer encore.
Okay.
Puis, il va y avoir une dizaine de voitures également.
Ah, ben c'est intéressant. La collection de Luc, il y a vraiment des belles machines. Là. Il y a des Ferrari de collection. Puis il y a une histoire, Luc, ben, je la raconterai pas parce qu'on la raconte à la télé avec l'émission Passion Auto. On commence en janvier. On était voir Luc, puis il nous a conté le pourquoi du comment de sa collection.
J'allais dire, il y a des collectionneurs au Québec assez spectaculaires.
Ah oui, absolument. Là, je traverse le Québec depuis une couple de mois là, à la rencontrer. Puis il y a vraiment, il y a des belles attractions. Allez-vous encore avoir votre zone électrique, Denis?
Ben, c'est-à-dire, la zone électrique, maintenant, fait partie intégrale du salon parce que tous les manufacturiers qui sont présents ont des véhicules électriques. Donc, ça aurait été un peu, je vais utiliser le terme, là, ça aurait été nono d'avoir des véhicules électriques chez le concessionnaire puis faire une zone à côté.
Fait que vous l'avez intégré de façon...
Donc, on va revenir avec ce qu'on avait fait il y a quelques années où on va faire un parcours électrique, donc on va indiquer où sont les véhicules.
Bon, parle-nous un peu des activités caritatives, parce que vous en avez chaque année. Votre grande soirée, la collecte de sang, est-ce que tous ces événements-là sont toujours présents?
Effectivement, l'avant-première bénéfice au bénéfice de 6 fondations hospitalières va toujours avoir lieu le jeudi 19 janvier. Les billets ont commencé à être mis en vente hier, justement. Donc, les gens peuvent acheter leurs billets sur le site Internet. Ils peuvent aller soit à une des 6 fondations ou bien au Salon de l'Auto et suivre les liens.
Okay.
Donc, ça, c'est une belle soirée. C'est pour une belle cause. Le fait qu'on a réduit un peu le salon, on va réduire également le nombre de billets. Alors, ça veut dire que les 4 dernières éditions, on était à guichet fermé à 5000 personnes. Et on doit réduire à 3500 personnes. Donc, ça va jouer du coude dans le dernier droit.
Oui, j'imagine. Oui, puis surtout que les gens, là, ils recommencent. Tu sais, les gens recommencent à peu près à avoir une vie normale, puis ils aiment ça sortir.
Absolument.
Je pense que vous pourriez le faire à 10 000 cette année, vous auriez du monde.
Oui, probablement, mais là, ça ne deviendrait plus une soirée exclusive.
À 10 000, c'est moins exclusif, effectivement. Puis, collecte de sang, vous allez faire ça quand?
Ça va être durant la semaine du salon.
OK. Ouais. Parfait. Les gens peuvent se rendre tous les jours faire un don de sang. Écoute, Denis, on rappelle les dates parce qu'on ne l'a pas dit. C'est du 20 au 29 janvier, c'est bien ça?
C'est bien ça.
OK. Donc, on invite les gens, évidemment, à aller faire un tour. Puis je pense que malgré tout ça, malgré les circonstances et des modèles qui ne sont pas toujours présents, on va quand même avoir un salon de l'auto à Montréal. Et ça, je pense que c'est très louable de votre part parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras. Puis il y a même des gens... Regarde, le salon de Tokyo, là, ont annoncé que ça allait devenir un salon de la mobilité l'année prochaine. Moi, j'ai vu ça. Le Francfort est devenu Munich. Et il y a plus de vélos que d'auto. Alors, d'être capable de garder une présence pour les amateurs d'automobile à Montréal. Puis il faut souhaiter qu'on est dans une période transitoire, qu'on va revenir à la normale et que les constructeurs vont revenir au salon. Mais je pense que c'est important de marquer le point qu'après 2 ans d'absence, le salon va revenir à Montréal. Alors, on le dit, c'est au Palais des Congrès, 20 au 29 janvier. Merci, Denis Dessureau. C'était très gentil de prendre un petit peu de temps. Je vous retourne à votre journée de travail, puis merci beaucoup.
Merci bien, les gars.
Salut, Denis. Alors, c'était Denis Dessureau, qui est vice-président exécutif du Salon de l'Auto de Montréal. Je vous le rappelle qu'il a lieu du 20 au 29 janvier prochain au Palais des Congrès, évidemment, à Montréal. Nous, on va à la pause. On revient avec notre chronique Écolo-Auto et nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Avant de passer à nos essais routiers, on va d'abord vous dire, si vous voulez nous écouter, facile. Vous allez, d'abord, on est en onde le dimanche à 18h au 98.5, mais on est un petit peu partout sur le réseau Cogeco à travers le Québec. Vous pouvez être en rattrapage balado, aller sur le site 98.5, dans la section balado, ça tient la route, on est là. Vous allez aussi sur le site annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine des balados. Mm-hmm. J'envoie ça aussi sur mes pages Facebook. Et ben vous abonnez, c'est la façon la plus simple, on vous envoie une petite alerte, puis boum, vous pouvez écouter l'émission. Alors, toutes vos plateformes préférées d'écoute de balado, on est là, on fait à peu près tout le monde. Donc, c'est la façon la plus facile. Chronique Écolo-Auto cette semaine. Tiens, Mazda a sorti un plan d'électrification. Là, ça a été dans les nouvelles.
Oui, finalement, ils rejoignent la tendance, disons-le comme ça.
Ben, c'est ça. Puis là, Mazda va avoir 2 nouveaux modèles hybrides affichables sur le marché l'an prochain. On parle des Mazda CX-70 et CX-90 qui vont remplacer, si vous êtes dans l'énumération, Mazda, le CX-7, le CX-9.
Si vous vous rappelez, oui.
Si vous en rappelez, si on se fie à Mazda, il va y avoir... en fait, le CX-60 PHEV qui est en Europe, qu'on n'a pas chez nous, mais on aurait le même groupe motopropulseur, donc on aurait une autonomie qui tournerait autour de 65 km en mode tout électrique. Donc mm-hmm. ça, c'est intéressant. Il y a Mazda aussi qui a dit qu'elle allait annoncer d'ici 2025 8 nouveaux modèles électrifiés. Donc électrifiés, ça veut dire partiellement ou totalement électrique. Ouais. Puis c'est à travers le monde. Attendez pas 8 modèles au Québec, là, on n'aura pas ça. Mais il va y avoir des modèles un peu partout. On parle d'un modèle aussi MX-30 qui aurait une version hybride branchable. Peut-être okay. avec la même formule que les CX-70 et 90, parce que Mazda, là, c'est pas un grand constructeur. Mazda n'a pas les moyens.
Non,
l'échelle
mondiale, c'est un petit joueur. En fait, ouais.
Donc, ils n'ont pas les moyens de lancer 12 formules d'hybrides branchables. Ils vont en avoir une qu'on va appliquer à tout le monde. Mm-hmm. Et ça, c'est à peu près là, une certitude. Et par contre, ce qu'on a aussi voulu spécifier du côté de Mazda, c'est qu'on n'abandonne pas les moteurs essence. Beaucoup de compagnies, là, ont dit, nous autres, à partir de 2025, final bâton, on fera plus de modèles à combustion interne. Ouais. Ça va être que d'électrique. Mazda a dit non. Nous autres, on est conscients que d'ici 2030, la majorité des véhicules vont encore rouler avec de l'essence. On va en faire, on va continuer et on va adapter notre stratégie selon le courant du moment. Courant,
ah oui.
Électricité. Oui,
ils sont quand même fixés à un horizon 2030.
Ils sont fixés, là. Oui, oui. Ouais. Ben, en fait, à partir de 2030, on va ajuster. Donc, si vous n'avez plus de détails, ça aussi, je vais le mettre sur ma page Facebook de l'annuel de l'automobile. On peut aller du côté d'écoleauto.com et on va avoir l'article au grand complet.
Voilà.
Alain, parle-nous de ton Mirai. On est dans l'avenir, c'en est un modèle d'avenir.
Oui, on est effectivement dans l'avenir. On a déjà parlé un peu de la deuxième génération de la Mirai là, à l'émission le printemps dernier. On a pu l'essayer en Californie à côté du oui. BZ4X. C'est un autre exact. Véhicule. On peut pas dire du futur. Faudrait dire du, mon Dieu, du
subjonctif
du conditionnel.
C'est ça. Le plus que présent.
Exactement. On l'a essayé, bref, l'espace de quelques instants. Là, cet automne, Toyota Canada a importé une Mirai à son bureau de Brossard sur la rive sud de Montréal. Et on a pu l'emprunter. En tout cas, j'ai pu l'emprunter pour quelques jours, histoire de voir si c'était une voiture qui pourrait bien faire dans le contexte routier québécois. Routier et même, je dirais, automnal avancé, parce qu'il faisait pas super chaud. Et la réponse courte, évidemment, c'est oui, mais... Oui, parce que évidemment, bon, tout dans cette voiture-là est entièrement normal, pour pas dire banal, là, à part évidemment le moteur qui est électrique et qui est animé par une pelle à combustible. Mais sinon, la Mirai pourrait... Écoute, ça pourrait tout aussi bien être une Camry. À bord, là, c'est très sobre.
Oui, c'est très, comment...
Sinon, carrément décevant, je dis.
On dit en anglais « uneventful ».«
Uneventful ». Il n'y a aucune surprise, effectivement.
C'est banal.
Et contrairement à la Prius, en fait, qui a longtemps été une vitrine technologique pour Toyota. Hein, quand on présentait la nouvelle Prius dans les années 2000, c'est toujours avec un paquet de gadgets. Là, on dirait que la Mirai est plutôt à l'inverse. On a créé un véhicule qui se voulait le plus terre-à-terre possible. Une façon de dire que c'est pas parce que c'est de la haute technologie que c'est inaccessible. Et pour vous dire à quel point, il n'y a pas d'interface Android Auto CarPlay sans fil à bord. Donc, c'est vraiment une voiture de base, disons-le comme ça. Donc, oui, la Mirai, au premier coup d'œil, là, a tout ce qu'il faut pour se mêler de façon assez anonyme à la circulation. Ça, c'est un gros point de vendeur chez Toyota pour la Camry de la Corolla. Et la Mirai ne fait pas tourner les têtes du tout, et c'est peut-être une bonne affaire, de toute façon, si on veut. D'ailleurs, quand on l'a conduit, là, on a vraiment l'impression de conduire une Prius ou une Camry hybride, en fait. L'accélération est correcte, on va dire ça comme ça, et on sent de temps en temps un grondement qui rappelle celui d'une petite cylindrée qui embarque à des moments un peu, je vais pas dire inopportun, mais disons inattendu.
inattendu, c'est bon.
Mais ironiquement, c'est quand on éteint la voiture qui a fait le plus de bruit. Là, le moteur évacue à ce moment-là l'excès de gaz
d'échappement
accumulé. La purge, exactement, qui devient un terme dans l'automobile, qui est en fin de compte, parce qu'évidemment, quand on oxyde de l'hydrogène, ben, on obtient de l'eau, hein, fait que c'est de l'eau qui sort. C'est de la vapeur, en fait. Puis s'il fait juste assez froid, vous voyez un petit nuage formé, puis c'est assez cocasse. Mais c'est pas dangereux. C'est rien de risqué. C'est juste étrange parce qu'on éteint la voiture, on sort du véhicule. Puis moi, dans mon cas, les enfants se demandaient si j'avais oublié de l'éteindre parce que c'est là où ça fait du bruit.
Bon. Oui, c'est ça.
Sous le capot, je l'ai dit, on trouve un moteur à pile à combustible qui s'alimente à l'hydrogène. Techniquement, là, rappelons que la Mirai repose sur une plateforme appelée GAL de Toyota qui abaisse son centre de gravité et surtout accorde 30% plus d'espace pour stocker l'hydrogène par rapport à la Mirai de la génération précédente qui était une voiture plus près d'un prototype que la Mirai actuelle, qui est plus une voiture de tous les jours à part la mécanique.
Pour être poli, l'autre était laid en
Ah oui, ben là, ça, il y avait ça aussi, effectivement.
La nouvelle a du bagou, ouais. Un certain style.
Ben, ils ont retrouvé un
style certain.
Ils ont retrouvé un sens du coup de crayon chez Toyota, parce que même la nouvelle Prius, c'est pas mal non plus.
Est-ce qu'ils ont engagé un designer qu'on connaît pas? Ah, ça, c'est la question. Mais bon, avouons que le modèle est joli.
Oui, ça passe mieux, clair. Effectivement, le test du premier coup d'œil. Sous le capot, donc, le groupe électro-hydrogéno-hybride, je sais pas comment dire ça, peut parcourir là, jusqu'à 647 km par plein en théorie. énumé évidemment que de l'eau. Un plein d'hydrogène, là où on peut le faire, ne prend pas 5 minutes, c'est comme un plein normal d'une certaine façon.
Ouais, c'est comme de l'essence.
Écoute, si on tient compte du prix actuel de l'hydrogène, 71$.
OK.
Fait que de ce point de vue-là, hein, quand on se rend compte que le prix de l'essence, lui, est
là,
pas...
Là, t'es pas allé trop loin, parce qu'à moins, il y a rien qu'à Québec, pour le moment, que tu peux mettre de l'hydrogène dans un auto.
C'est ça, là, en ce moment, je suis dans le mode théorique, parce qu'en pratique, c'est pas ce que j'ai eu sous la main. J'avais une voiture avec un réservoir à moitié plein seulement, c'était bon pour 230 km.
Ouais, ben en fait, il y a deux réservoirs, puis on en utilise qu'un.
Exact.
J'ai eu le même modèle à l'essai, moi aussi. Là,
fait que... Comme il n'existe pas vraiment de moyen de faire le plein à Montréal, autre que d'appeler Toyota pour qu'il amène le camion, c'était pas mal ça, et c'était pas plus que ça, comme autonomie. Et c'est un peu ça que, c'est malheureux, mais c'est ça que je retiens de l'essai, là, l'impossibilité de faire le plein. Ce qui fait qu'on en revient au même stress de tomber en panne qu'on ressentait au début avec les premières voitures électriques, hein, quand il n'y avait pas vraiment de réseau de recharge.
Exact.
Espèce de peur de la pile morte, là, on a la peur de l'hydrogène disparu, évaporé. Évidemment, l'objectif de Toyota Canada avec ces véhicules-là, on le sait, là, c'est de forcer les gouvernements à investir dans des stations d'hydrogène. Il en faudrait au moins une ou deux à Montréal, on s'entend, on en a en ce moment qu'une est à Québec. C'est le fun pour les gens de Québec, mais pour le reste de la province, c'est un peu fâchant. Et tant que, évidemment, ça va pas se régler, là, ça coûte cher des stations d'hydrogène quand même. C'est quelques millions, 4 ou 5 millions de dollars.
On parle à peu près de 5 millions pour une station d'hydrogène.
Écoute, on aura beau tester tous les véhicules d'hydrogène qu'on voudra, le constat va toujours être le même. On n'est pas encore prêt pour la voiture d'hydrogène tant qu'il n'y aura pas de réseau de recharge.
Exact.
Ou autre de plein.
Tant qu'on n'aura pas trouvé une façon intelligente, soit d'abaisser le prix ou de jeter de l'argent, littéralement, là, parce que imaginez-vous, pour que ce soit viable, t'as combien de.
Ouais.
Tu sais, Hydro-Québec a 2500. Combien qu'on a de bornes? On dit à 2600.
Ben non, c'est ça.
Puis ça continue de prendre l'expansion. Alors imaginez un peu à 5 millions chaque, multiplier ça.
Il y a un bon argumentaire pour avoir de l'hydrogène dans les centres urbains. Ou avoir plein de bornes de recharge, c'est un peu compliqué, mais en même temps, Guerre Lamiraille, il y a 55 000 $ en partant.
Ouais.
76 000 $ en version plus équipée. C'est pas des voitures qui sont pratiques, qui sont, disons, abordables, puis on n'a pas d'infrastructure
mais
non plus.
Outre l'infrastructure, j'aime bien l'hydrogène. Je trouve que c'est une façon intelligente de se déplacer. Le temps de recharge, ben, c'est le temps d'un plein, c'est 5 minutes.
Mm-hmm.
Puis les coûts sont assez comparable à un plein d'essence en ce moment. Là, on n'est pas beaucoup plus cher que ça.
Il y a eu en 2002, il y a eu en 2008, il y a eu en 2012 des vagues d'investissements hydrogène parce que c'était bon, motivé par l'investissement du gouvernement américain puis plein d'affaires. Mais tu sais, c'est comme il y a aussi beaucoup de mauvaise foi parce qu'on utilisait ça pour dire le prix de l'essence, c'est le moment, tu sais, le moment de penser à une alternative. Finalement, on ne l'a jamais fait dans l'industrie, mais la technologie existe depuis au moins 20 ans.
Non, puis il y a encore des compagnies, Toyota est la première, des compagnies comme Hyundai, parce qu'on peut acheter un Nexo au Québec aussi, qui est un modèle à hydrogène. BMW a poursuivi aussi de son côté. Certaines compagnies comme Volvo le font dans les véhicules lourds.
Mazda avait un RX-8, un moteur rotatif.
Oui.
Il y avait un bouton sur le tableau de bord qui permettait soit de mettre de l'essence ou de l'hydrogène selon ce qu'on avait disponible.
Exact.
Ça m'apparaît comme une super formule pour jamais transiter d'une vers l'autre.
Absolument.
Malheureusement, ça n'a jamais été mis en marché. Donc.
Mais effectivement, il existe des solutions là-dessus.
Ouais.
Tiens, moi, de mon côté, je parle du trio de véhicules verts de chez Kia. Mm-hmm. J'ai nommé la Niro.
qui est un 3-1.
Qui est un 3-1. En fait, on va continuer pour 2023 d'offrir encore trois versions de Niro. La version hybride, la version hybride rechargeable et la version électrique. On était la semaine dernière du côté de la Californie pour essayer les modèles. On était dans le bout de...
C'est grand, la Californie.
San Diego.
Ah,
San Diego.
Donc au sud de la
Californie. San Diego. On est allé même dans le siège social pour voir les véhicules puis faire le tour aussi. On a eu quelques conférences là dans le modèle. On a changé, là. Il y a un changement évident au niveau du style.
Oui.
On a.
Ça a l'air spécial,
refait.
La nouvelle Niro, en fait. Ça a l'air d'un drôle de design.
C'est un véhicule qu'on oublie souvent dans la liste des véhicules quand on veut acheter. C'est pas un véhicule qui sort du lot, mais qui gagne à être essayé.
Ben, en électrique, en tout cas, c'était un des bons choix.
En électrique, c'est un des bons choix. Il y a une très bonne autonomie qu'on a augmentée à 407 km cette année. On était à 385 en 2022, donc l'an dernier. Toujours le même genre de moteur, c'est-à-dire que 201 chevaux, 188 livres-pieds de couple. On a aussi augmenté l'autonomie du modèle hybride en fichable. On avait 37 ou 38 kilomètres de mémoire, on en a 55. Bon, j'aurais aimé mieux entendre 85 que 55, mais bon, c'est une amélioration. Puis le modèle hybride tout court, ben c'est toujours le même principe, 139 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Là-dessus, il n'y a rien qui a changé. On annonce une autonomie de c'est-à-dire une moyenne de consommation d'à peu près 4,4 litres au 100 dans le modèle hybride. Puis on est à 4,8 pour l'hybride branchable. C'est sous la barre des 5 litres, ce qui est tout à fait raisonnable.
Donc l'hybride consomme moins que l'hybride branchable?
Oui.
Non, c'est étonnant quand même.
Il y a une petite différence parce qu'il est plus puissant, mais effectivement, il y a une petite différence.
Évidemment, ça varie avec l'usage qu'on en fait.
Ça varie avec l'usage. Là, c'est des moyennes à peu près à 100 km/h, si on prend une moyenne là, à établir. La gamme de prix, 29 995, ça, c'est l'hybride de base, donc le modèle LX. Si on prend la version EX, qui est la version juste au-dessus, on est à 31 995. Le modèle EX Premium, 34 695. Et le SX, toujours dans la version hybride, 38 695. Bon, l'hybride rechargeable, il y a une seule version.
Mm-hmm.
Il y a un modèle qui s'appelle le EX, qui est à 37 995 et that's it. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'hybride branchable, c'est que le rabais provincial est de 2 500 $.
OK.
Et parce que la batterie est assez grande, on a 5 000 $ au complet du fédéral.
Ah bon?
Fait qu'on a 7 500 $ de rabais. Fait qu'honnêtement, ça revient moins cher que d'acheter le modèle hybride.
30 000, 31 000,
t'es autour de 30 000 et des prunes.
Mm-hmm.
Et t'as 55 km d'autonomie. Alors ça, honnêtement, pour les gens qui disent, moi, le tout électrique, le prix, peut-être pas tout de suite. Hey, l'hybride branchable,
c'est
ça
vaut
la peine.
Ben oui.
Le modèle électrique arrive en version premium. Même si c'est premium, c'est le modèle de base. Tu sais,
Ouais, on aime ça jouer sur les mots.
Ben, en fait, ce que Kia nous a dit, c'est que, on a beaucoup d'équipements dans le modèle électrique, puis on voulait pas mettre un modèle de base parce que c'est pas vrai, tu sais, il y a beaucoup de stock, puis je peux comprendre le raisonnement. 44 995. Donc là évidemment, on a 12 000 $, le 5 000 du fédéral et le 5 000 du provincial. Donc ça le premium honnêtement, c'est une bonne valeur. 47 995, ça c'est le premium plus. Puis le Limited, qui est le modèle que nous, on avait prêté, t'as 52 995. Lui, évidemment, il y a toutes sortes de bébelles de plus, puis tout ça.
Que deux roues motrices, par contre, non?
Que deux roues motrices, par contre, effectivement. Ça, c'est peut-être... Mais c'est une traction. Alors, une traction, honnêtement, avec des bons pneus d'hiver, vous allez passer au travers de l'hiver. Moi, je me soucie pas trop de ça. J'aurais préféré qu'il y ait au moins une option dans le quatre roues motrices, mais il y en a pas. C'est un deux roues motrices. Mais cela dit... confortable, bien construit, à peu près la même grandeur. Là, tu sais, on a changé le style, mais on n'a pas immensément changé le reste.
C'est
on est sur les mêmes bases.
Mm-hmm.
Oui, oui. Mais c'est un des bons véhicules électriques qui est sur la route. Et aux dernières nouvelles, c'est parmi ceux qui n'avaient pas 14 ans d'attente quand on en commande
un. Détail
important, vous pouvez l'avoir avant votre retraite si vous le commandez. Alors ça, c'est en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais ça reste un modèle qui est intéressant à regarder. On a un petit peu allongé le modèle. Là, on a par exemple 5 cm de plus à l'arrière. Donc, c'est surtout aux places arrière que ça profite pour les gens qui vont... Donc, si vous avez la petite famille, là, il y aura un petit peu plus de place à l'arrière. Puis évidemment, comme tous les produits qu'il y a, il y a pas mal d'équipements de base qu'on retrouve très souvent en option dans d'autres modèles, tu sais, comme des sièges chauffants et ventilés dans les versions SX. Le siège du conducteur qui se règle électriquement en disposition. Tu sais, c'est des choses qu'on retrouve dans des modèles plus luxueux habituellement.
Ouais.
Qu'on a dans ça. Donc, dans l'ensemble, si vous me dites, c'est un bon modèle, absolument, c'est un bon modèle. Il y a une bonne économie au niveau du carburant dans les modèles hybrides, hybrides branchables.
Il va falloir mettre son look,
C'est un style qui est plus mature, je trouve, dans sa nouvelle version. Évidemment, il n'y a pas de rouage intégral. Ça, c'est peut-être le petit défaut qu'on trouve. Ça serait une chose à laquelle on devrait penser du côté de chez Kia. Mais voilà, ça met fin à notre émission pour aujourd'hui. Merci Alain d'avoir été là.
Benoît.
Merci à Claude Hébert à la console. Alors, il est en train de rebooter le système. On a toutes sortes d'affaires à la station. Mais si vous nous entendez, c'est parce qu'il a réussi à tout faire marcher. Alors, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, tout le monde. Salut!
C'est 23.